La Plume dans la Balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme Michel.
Bon, alors ce qui est curieux dans les quelques pages que vous consacrez à la vie d'Orwell, c'est que, au fond, il a découvert la misère, l'injustice assez tard dans sa vie, et on peut dire que cette découverte l'a complètement chamboulé, transformé. Oui. Hein, ça a modifié le cours de sa vie.
Oui, c'est vrai. C'est presque le hasard d'une enquête en milieu ouvrier au moment de la dépression dans le nord industriel de l'Angleterre qui lui a fait rencontrer donc cette misère ouvrière et qui a été le point de départ de ce qu'était, on pourrait dire, sa conversion au socialisme.
Oui, c'est ça.
Alors, pas le mot conversion, le mot un terme religieux, parce que ce n'est pas une adhésion à un mouvement politique, c'est beaucoup plus une adhésion à un ensemble de valeurs morales.
Oui. Vous parlez de l'honnêteté massive d'Orwell. Qu'appelez-vous l'honnêteté massive?
Le fait qu'il n'y ait pas d'intervalle, ou le fait qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il y ait une unité entre ce qu'il écrit et ce qu'il est.
Oui, parce qu'il faut bien dire qu'on...
Ce n'est pas un homme de lettres, de ce point de vue.
C'est ça.
C'est un homme et qui écrit.
C'est le contraire. Vous dites même que... Alors, on peut s'en moquer un peu, mais effectivement, quand il découvre la misère, eh bien, il dit « je vais vivre la misère avec les miséreux ». Alors, il devient clochard, à Paris d'ailleurs, à Londres, etc. Mais c'est une expérience fausse.
Oui. Ça reste une expérience artificielle à beaucoup d'égards, parce qu'il peut en sortir à tout moment, et qu'en fait... Il est toujours un spectateur. Même quand il vit la misère avec les miséreux, il reste quand même un membre de l'élite anglaise qui a eu une autre éducation, qui a accès à d'autres valeurs culturelles, etc.
Alors, honnêteté massive aussi de George Orwell, eh bien, il s'engage dans la guerre d'Espagne. Il va, aux côtés des républicains, lutter contre le fascisme.
Oui.
Et ça, c'est très important aussi dans sa vie.
C'est décisif dans sa vie, comme il le dit lui-même, ce qui est assez étonnant, parce que bien avant d'aller en Espagne, il avait déjà parlé de sa foi dans le socialisme. Mais en fait, ce n'est qu'après son passage à la guerre d'Espagne qu'il dit « maintenant, enfin, je crois au socialisme ». Il y a eu un bref interlude pendant un bref épisode au moment où il est arrivé à Barcelone. Il a eu le sentiment que la révolution était possible, que la fraternité révolutionnaire était possible. Était-ce une illusion ou pas? C'est une autre question. Mais dans l'histoire de sa vie, ça a été un moment décisif. Ce moment où il ne devait plus jouer la comédie pour se faire passer pour un prolétaire, simplement il était volontaire et accepté comme un camarade parmi d'autres. On ne s'interrogeait plus sur le fait qu'il avait l'accent des bonnes écoles et il était simplement camarade au front, luttant dans la même lutte. Pour la première fois, il a réalisé la possibilité d'une fraternité effective et réelle avec...
Bon, alors comment expliquez-vous que ce socialiste, qui restait socialiste jusqu'à la fin de ses jours, écrive deux livres, qui sont donc « La ferme des animaux » et surtout le plus connu, 1984, qui sont justement deux machines de guerre formidables contre le socialisme?
Parce que simultanément avec cette découverte de la possibilité d'une révolution, de la possibilité d'un socialisme, il découvre en même temps la réalité du totalitarisme. C'est le... La répression des staliniens qui s'efforcent, qui sont bien plus préoccupés d'éliminer les milices anarchistes que de lutter contre les fascistes, et qui exercent une censure stricte sur ce qui se passe réellement au front d'Espagne. C'est la réalité, donc cette réalité meurtrière de la bête totalitaire à laquelle il est confronté. Ce qui fait que sa découverte est double. D'un côté, il y a la possibilité d'une révolution socialiste, mais d'un autre côté, cette révolution n'est possible que si, simultanément, on dénonce le totalitarisme soviétique.
Ouais.
L'avènement du socialisme ne pourra se faire que après qu'on ait exposé et dénoncé le mensonge.
Deux autres questions.
Donc, on vient d'entendre ce dialogue entre Pivot et Leiss à propos de Orwell, et on voit tout à fait comment, dans les dans le cas de Orwell et de Leys, la découverte de la réalité du totalitarisme pour l'un et celle du maoïsme pour l'autre sont effectivement parallèles. Leys part dans cet extrait de la bête totalitaire dans les deux cas et de l'honnêteté massive d'Orwell. Vous évoquez, Jérôme Michel, dans votre ouvrage, le rapport d'Orwell avec la fraternité, et vous évoquez cet extrait, cette fable, cette parabole de l'homme du pantalon, l'homme au pantalon, dans la figure de l'ennemi. Est-ce que vous pouvez réévoquer cette fable et sa signification dans l'œuvre d'Orwell ?
Oui, pour Simon Leys, ce passage d'Hommage à la Catalogne,
l'homme à la Catalogne
est emblématique du refus des abstractions, qui est une des caractéristiques de la pensée d'Orwell. Orwell dit « Je suis venu en Espagne pour me battre contre des fascistes. Je suis là pour tirer sur des fascistes. » Et il raconte que, je crois que c'est à Madrid ou à Barcelone, je ne sais plus l'endroit où ça se situe.
C'est l'hommage à la Catalogne.
Le fait lui-même.
Oui, le fait.
Il est posté derrière un muret et il y a des fascistes en face. Et à ce coup, il voit sortir derrière un mur un homme qui tient un pantalon de ses deux mains, en réalité, et donc qui va satisfaire un besoin naturel. Et Orwell, à cette phrase extraordinaire, il dit « Je refuse. » À ce moment-là, je ne veux pas tirer sur un homme. C'est un fasciste, sans doute, mais là, c'est d'abord un homme. Voilà. Au fond, c'est l'une des manifestations du refus des abstractions, des catégories. Et l'idéologie, justement, c'est la disparition de la personne derrière des catégories. Dans la Chine communiste, vous aviez, la Chine maoïste, vous aviez les 5, puis les 7, puis les 9 catégories. Les rouges et les noirs. Les rouges, les catégories vertueuses, le soldat révolutionnaire, le paysan pauvre, le cadre du Parti communiste. Et vous aviez les catégories noires. Fils de propriétaire foncier, droitier, j'en passe, et des meilleurs. Et au fond, quand vous avez des catégories, vous pouvez tuer une catégorie. C'est pas un problème. On est dans l'idéologie et on combat, au fond, l'ennemi. Mais derrière le masque ou la catégorie droitier ou autre, vous avez des hommes. Et pour Orwell, il ne faut jamais oublier que derrière les grandes catégories que l'on peut utiliser, encore aujourd'hui bien sûr, il y a d'abord des personnes avec notamment dotées d'un corps, que l'on peut martyriser. Donc c'est vraiment ce passage-là, et la manifestation vraiment du refus des catégories, qui est l'un des traits qui, comment dirais-je, que Simon Leys partage en tout cas indéniablement avec Orwell.
Ce passage m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. J'ai fait une comparaison, vous allez me dire ce que vous en pensez, Jérôme Michel, une comparaison avec la présence du juge confronté à un être humain. Si vous voulez, vous avez d'un côté la loi qui incrimine, qui frappe une catégorie, un délinquant, un criminel, un prédateur, comme on dit, donc une catégorie abstraite qui la frappe par une peine, quelle qu'elle soit. Mais le juge, lui, il n'a pas en face de lui une catégorie. Il a un homme qui peut-être effectivement perd son pantalon, mais qui effectivement peut être fragile, qui peut bégayer, qui peut loucher, qui peut avoir des caractéristiques de vulnérabilité comme tant l'ont. Une requérante au droit d'asile, dont je me souviens, qui, pour tout argument, opposait une épaule brisée par un voyage douloureux pour elle, ou un jeune qui, quand je lui avais infligé la détention provisoire, m'a dit « même pas mal ». Et je trouve que cette confrontation du juge avec le réel de l'humanité n'est pas la même position que celle d'un législateur abstrait qui enferme dans une catégorie un délinquant ou un criminel. Je me suis demandé d'ailleurs si la distance entre la peine encourue et la peine réelle n'est pas un gouffre sans fond qu'il faut traverser les yeux ouverts. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion, vous qui êtes juge aussi, Jérôme Michel ? On est un peu loin de Leys, mais
oui,
la comparaison peut être filée quand même.
Et le point commun, en tout cas, si l'on peut, c'est trouver quelque chose entre ce que vous venez d'expliquer et la position de Leys lisant Orwell,
voilà,
d'une certaine manière, c'est le réel, au fond. Voilà. Hein, c'est de ne jamais rompre le lien avec la réalité nue, telle qu'elle se présente à nous. Et nous sommes, il faut bien le reconnaître, nous sommes toujours tentés, au fond, de mettre un voile. parce que ça nous dérange, parce que soudain, la réalité telle qu'elle se présente ne correspond pas à l'idée que nous nous en faisons, hein, à l'image préconçue que nous en avons. Et lorsqu'un fait nous gêne, la première inclination, c'est de l'évacuer. Simon Less rappelle, un point important à dire, Simon Less était profondément catholique. Ça fait partie de son identité intellectuelle. Et au fond, c'est ce catholicisme-là qui lui a permis sans doute aussi de résister aux sirènes des idéologies temporelles. Et il, dans un très beau texte consacré d'ailleurs, qui est une réflexion sur Pâques et sur la mort du Christ, il rappelle le face-à-face entre Pilate et le Christ. On a déjà évoqué la figure de Pilate en d'autres occasions. Et où Simon Less dit, au fond, nous sommes tous comme un peu comme Pilate. Alors, croyant ou pas croyant, hein, nous sommes tous comme Pilate. Nous avons la vérité sous les yeux. Au fond, il suffit de la toucher, presque de toucher le corps. Et nous ne la voyons pas. Hein, et nous en lavons les mains. Donc c'est un peu...
Simplement, juste pour poursuivre ma comparaison, je me souviens en particulier que dans des situations de violence intrafamiliale, les travailleurs sociaux vous disent « cette famille est coopératrice, aucune difficulté, on renouvelle le placement, etc. » Mais ils ne voient pas l'inceste. Donc on ne voit pas l'inceste parce que la famille est coopératrice et est bien sous ce registre-là et donc flatte en quelque sorte le travail réalisé par les assistantes sociales. Mais c'est une parenthèse que je fais un peu à côté de ce sujet-là. Mais en même temps, ce refus des catégories abstraites, mais c'est très profond comme analyse, et des masques idéologiques, c'est le moyen pour Leys et pour Orwell aussi de retrouver notre commune humanité. Et il y a chez, on vient d'entendre dans l'extrait tout à l'heure, il y a chez Orwell, et Leys partage cette analyse, l'horreur de la politique. Et l'idée, ce que vous évoquez aussi dans l'ouvrage, Jérôme, la volonté, et Camus le partage également, d'un État modeste.
Une place modeste à la politique.
Voilà,
Que la politique a sa place, voilà. Évidemment. Le titre de l'essai de Simon Less sur Orwell ou l'horreur de la politique, il ne faut pas il faut bien l'interpréter ou bien le comprendre. Il ne s'agit pas de répudier la politique. Il n'y a pas d'apolitisme ou une sorte d'éloge de l'apolitisme chez Simon Less. Simplement, il n'est pas un spécialiste des sciences politiques, il n'est pas un spécialiste, comment dirais-je, il n'est ni juriste constitutionnaliste ou expert en sciences politiques. Lui, il traduit avec ce titre l'expérience qu'Orwell a eue en Espagne et ensuite dans la gauche anglaise et que lui, Simon Less, a connue en Chine, qui est celle d'une pathologie du politique. Cette horreur du politique, c'est l'horreur des pathologies du politique. Hein, d'une politique qui occupe, qui sature complètement tout l'espace. Le fameux « tout est politique » dont on entend encore aujourd'hui, et c'est quelque chose que je trouve assez effrayant d'entendre ça encore aujourd'hui, le « tout est politique ». Donc cette horreur-là ne vise pas la ou le politique en tant que tel, mais une déviation, une pathologie du politique. Et c'est au nom de la vérité des faits, justement, et au nom de ce que Orwell, dans 1984, fait dire à Smith, lorsqu'il prend conscience, au fond, qu'il vit dans un mensonge organisé, et où Orwell écrit, enfin Orwell, Smith, l'évidence, le stupide bon sens, et la vérité doivent être défendues, les truismes sont vrais, il faut s'appuyer là-dessus, les pierres sont dures, l'eau est mouillé, les objets qui tombent sont soumis à la loi de la gravité. Cela, une fois admis, tout le reste s'ensuit. Voilà la grande
partir
morale.
Partir du réel.
Et revenir.
Oui, tout à fait. Et que vient faire l'analyse que propose Leys de Chesterton et cette idée que le mal est spirituel, et peut-être rappeler aussi qui était Chesterton, parce qu'on a un peu oublié.
Chesterton, c'est un des très grands écrivains anglais de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Hein. L'auteur des enquêtes du père... Il faut absolument lire Chesterton, qui est un des maîtres de l'humour, d'ailleurs. Il y a des formules extraordinaires de Chesterton. Un des grands maîtres de l'humour anglais, en quelque sorte. Les enquêtes du Père Braun, un nommé jeudi, les essais réunis, c'est un journaliste prolifique, hein. Les articles réunis sous le titre « Orthodoxie et hérésie », l'auteur d'un très beau livre sur saint François d'Assise et d'un magnifique travail sur saint Thomas d'Aquin. Et dans l'essai sur saint Thomas d'Aquin, il explique en effet que le christianisme, car Jay Sutton est un auteur profondément catholique anglais, donc un minoritaire au sein du christianisme, oui, anglo-saxon, Chesterton explique que le christianisme a renversé en réalité la croyance platonicienne. Rappelez-vous, chez Platon, c'est le monde matériel, c'est le monde sublunaire qui est mauvais, dont il faut s'échapper, dont il faut s'extirper, c'est tout le mythe de la caverne dans la République, pour atteindre au spirituel, à l'idée qui seule est la vraie lumière de la vérité. Pour Chesterton, il nous explique, analysant saint Thomas d'Aquin et la somme théologique, que c'est totalement l'inverse qui est vrai. C'est le monde matériel est bon. Il est l'œuvre de la création, on est dans l'optique catholique, il est l'œuvre de la création et Dieu a trouvé que son œuvre était bonne. Au sixième jour, avant le repos du septième, il est plutôt content de ce qu'il a fait. Et c'est, pour Chesterton, c'est le spirituel qui est mauvais. Mmh. Le spirituel est investi par le diable. Et au fond, Chesterton pense, et Simon Less avec lui, que le mal, du coup, n'a rien d'extérieur à l'homme. Il n'est pas objectif, il n'est pas dehors, il est dedans.
Il y a de constructions intellectuelles et abstraites.
Et au fond, les choses sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont plutôt bonnes. Mmh. C'est l'usage que l'on va en faire qui va être mauvais, mais c'est l'usage. Il est spirituel. Hein. Et c'est bien pour ça, justement, c'est bien pour échapper à cette potentialité maléfique du spirituel qu'il faut s'accrocher à la réalité, faire comme Robinson Crusoe, inventorier les biens matériels dont je dispose et qui vont me permettre de tenir et de ne pas rompre avec le réel.
D'ailleurs, dans les formules de Chesterton, j'en ai noté une, le monde s'est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. Donc on voit bien le sens du paradoxe et de l'humour de Chesterton.
C'est le maître du paradoxe.
C'est tout à fait savoureux. Il y a aussi chez Less une citation que je relevais dans votre ouvrage, cette idée que ce sont les perdants qui réussissent. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Parce que vous dites que ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. Et ceux qui persistent à vouloir, au fond, élargir la réalité aux dimensions de leurs rêves, échouent. Et le progrès humain est dû, dit Less, en définitive, aux gens qui échouent. C'est là aussi un paradoxe que soulève Less, et en lisant aussi Chesterton, l'idée que les perdants, parce qu'ils renoncent à leurs rêves, finalement, échouent du point de vue de leur réussite, alors qu'effectivement, les autres...
Less l'explique ou l'expose dans un texte sur Don Quichotte. Il y a une forme d'ailleurs de Don Quichottisme. Le catholicisme de Less ou sa conception de l'intellectuel relève d'une forme de Don Quichottisme spirituel. Et dans cet essai sur Don Quichotte, il écrit ceci qui je crois répond à la question que vous me posez. Le fameux milliardaire ou multimilliardaire américain Ted Turner a tenu il y a quelques années un propos remarquable. Il a déclaré qu'il n'aimait pas la religion chrétienne car, dit-il, c'est une religion de perdants. Et Simon Less conclut, comme c'est vrai, on ne saurait mieux la définir.
Ça rejoint Nietzsche.
Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Absolument. Alors, simplement, il y a une publication récente que je trouve, que je voulais soumettre à votre discussion, de Géraldine Nulman, qui s'appelle « Pour les faits » aux belles lettres, qui vient effectivement d'être éditée, et qui rejoint, je trouve, assez Less. Alors, le livre de Nulman est un livre de critique du journalisme, qui parfois préfère les interprétations ou les éditorialisations aux faits. On est dans la logique évoquée tout à l'heure. Mais aussi sur la virtualisation du monde. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une opposition entre les discours marqués par la subjectivité et le récit qui raconte ce qui est. C'est-à-dire, effectivement, les faits, et qui surtout quand ils sont inconfortables, comme dit Max Weber. Est-ce que vous ne pensez pas, Jérôme, qu'effectivement, aujourd'hui, il y aurait effectivement un autre aspect de la pensée de Leiss à développer, d'une certaine manière. Dans nos démocraties pluralistes, l'expression des opinions telles qu'elles jaillissent de toutes parts, du numérique, du médiatique, des chaînes d'information continue, au fond, nous cache la réalité, masque la vérité auquel elle se lie et nous raconte des histoires en permanence qui sont totalement des fables, souvent confortables pour nous masquer effectivement ces faits inconfortables qui sont l'apanage de la réalité.
Oui, je crois, et c'est tout l'objet du livre en réalité, c'est d'éviter de parler de Leiss au passé. C'est d'éviter de réduire Leiss à la dénonciation du maoïsme en acte, du maoïsme au pouvoir. Mao est mort en 1976, ça relève désormais de l'histoire. Hein. Même si les leçons n'ont pas toujours été tirées. Non, Leiss va bien au-delà de cette seule dénonciation du maoïsme. C'est un moraliste. Au vrai sens du terme, comme l'était Camus, comme l'était d'une certaine manière Bernanos, comme l'était Lu Xun, le grand écrivain chinois du XXe siècle, l'un des grands écrivains chinois du XXe siècle, comme l'était Liu Xiaobo. Voilà, c'est avant tout un moraliste. Et effectivement, cette hygiène, au fond, intellectuelle qu'il nous propose, ne jamais rompre avec le réel, s'en tenir à la vérité des faits, ne dire comme Peggy. Voilà, je crois que tout ce monde pourrait se retrouver dans la phrase de Peggy qui nous dit « il faut dire ce que l'on voit ». C'est une sorte d'impératif éthique, mais c'est qu'il y a...
À voir.
Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on
voit.
C'est de voir ce que l'on voit. Et ensuite de dire la vérité, tristement la vérité triste, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, etc.
Tristement la vérité.
Et au fond, on est confronté aujourd'hui, effectivement, vous le dites, à une espèce de cacophonie en fait, des discours amplifiés, démultipliés par les réseaux sociaux, par Internet, qui, bien souvent, quand on les analyse un instant, qu'on les confronte au fond à la réalité, disent à peu près n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec Internet, à peu près n'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, il y a n'importe qui, quelle que soit par ailleurs sa position, il peut être universitaire, comme il peut être un intellectuel. Mais au fond, on entend parfois des discours. Voilà. Je ne veux pas polémiquer ici, mais les événements récents du Moyen-Orient, au lendemain du massacre du 7 octobre, on a entendu des choses absolument hallucinantes qui se prétendent être la vérité. Or, c'est contraire aux faits. Voilà. Donc, je m'arrête là.
Oui, mais je file ma comparaison tout à l'heure. Malgré tout, on a le cas du négationnisme aussi, qui, par rapport au crime contre l'humanité, est un très bon exemple de discours délirant sur la Shoah. Mais qui est venu rétablir les faits ? C'est tout même la justice qui a instruit des procès, Barbie, Touvier, Papon et d'autres, pour dire, au fond, la vérité et la juger en tant que telle. Donc je pense que dans notre discussion, le grand absent, c'est le juge ou la justice que je réintroduis à la fin pour marquer quand même le rôle modeste qu'il a, mais qui quand même me semble important pour aller dans le sens de la pensée de Leiss. Dernière question, Jérôme Michel. Pourquoi faut-il aimer les crapauds?
D'abord parce que j'aime les crapauds. Non, l'injonction d'aimer les crapauds est un clin d'œil, en réalité, à Orwell. Alors voilà, je vais la citer parce que ça sera plus compréhensible pour tout le monde. Je crois que c'est là, je vais y arriver. Non. Voilà. Voilà ce qu'écrivait Orwell au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'en préservant son amour d'enfance pour des choses telles que les arbres, les poissons, les papillons, et pour revenir à mon premier exemple, les crapauds, un individu rend un peu plus probable un avenir pacifique et décent. Combien de fois suis-je resté à regarder à l'accouplement des crapauds ou deux lièvres se livrant à un combat de boxe dans les pousses de maïs en pensant à tous ces personnages haut placés qui m'empêcheraient d'en profiter s'ils le pouvaient, mais heureusement, ils en sont incapables. Les crapauds, c'est, parmi d'autres, tout simplement ce qui est... C'est le frivole et l'éternel. C'est ce qui doit dominer, c'est ce qui doit primer dans notre vie, en mettant la politique là où elle doit être, un peu comme la cuisinière dans sa cuisine, pour reprendre d'ailleurs une remarque de Camus, qui consonne parfaitement d'ailleurs avec ici la pensée d'Orwell. Les crapauds, c'est la poésie, c'est tout ce qui nous permet au fond d'être pleinement humain. Et on ne peut pas vivre dans la vérité si on n'a pas par ailleurs cette espèce d'amour de la création et d'amour, de gratitude finalement, de gratitude d'être au monde. C'est aussi quelque chose qu'il partageait à la fois avec Chesterton et avec Miloch.
Deux fusils, une hache, trois sabres, une scie, trois fromages de Hollande, cinq pièces de chèvre séchées. C'est ce que conserve Robinson sur son île, hein, c'est ce que dit Orwell, et que commente Leiss. C'est donc ce rapport à la réalité qui semble effectivement essentiel. Merci beaucoup, Jérôme Michel,
de
cette conversation. Et il est temps maintenant d'écouter la chronique littéraire de Sandra à travers de Faultrier.
Et je suis très heureuse parce qu'il y a plein d'échos, alors que ça n'était pas prévu. Donc voilà, bien. En consacrant un ouvrage de droit et littérature à Victor Hugo, Myriane Roman, professeure de littérature, s'exposait au risque de reprendre les nombreuses pages déjà consacrées au poète, habitées par la question de la justice. Que ce mot justice soit entendu comme fruit de la loi ou fruit des travaux des tribunaux, ou encore tout simplement renvoyant à une organisation sociale et morale. Or, l'ouvrage, Le droit du poète, la justice dans l'œuvre de Victor Hugo, qui a été édité en 23, enfin juste là, aux presses universitaires de Saint-Étienne, offre au lecteur une vision panoramique de la réflexion hugolienne sur le juste. Un juste qui relèverait plus d'une question morale, et là, c'est là qu'on retrouve ce que nous avons dit, que juridique. Le droit, qu'il s'incarne dans la loi ou dans la jurisprudence, devant avant tout obéir à une exigence morale plutôt qu'à la servile application d'une norme, selon Victor Hugo. Dénoncer l'injustice d'une société fondée sur le code et lui imposer en contrepoint la justice des hors-la-loi comme conscience morale de ce qui est juste, mais aussi comme action, constitue le cœur de l'engagement qui chemine et habite l'œuvre littéraire de Victor Hugo. Cette œuvre littéraire comprend aussi bien, je dirais, fidèle reflet de l'itinéraire intellectuel d'Hugo, des œuvres de fiction, connues ou moins connues, que des œuvres de nature journalistique ou politique, qui d'ailleurs, aux yeux de la loi française, sont aussi littéraires. Bon, je fais juste là une distinction de genre, parce que en général, on le fait sur le plan littéraire. Mille francs de récompense, œuvre écrite en 1866, est la seule pièce de Victor Hugo donnant une représentation d'un tribunal. Et cette œuvre travaille frontalement le thème de l'injustice de la loi et des jugements prononcés « parce que », là je cite Claude Gueux. Thème dont Hugo nourrira toute son œuvre, puisque lui plaide pour les circonstances atténuantes, l'individualisation du regard porté sur des actes et des personnes. Bref, ce sont autant de combats en dehors de celui contre la peine de mort qui, finalement, apparaissent à travers la lecture de toutes ces œuvres. Fiction romanesque et théâtrale, mais aussi prise de parole publique et politique, traite avec constance de l'irréductibilité de la notion de justice à la loi. Plus encore, l'écrivain fonde la justice comme le désir de justice sur une recherche hors la loi. À la loi figée et indifférente à la réalité située, on retrouve le réel, Hugo préfère une réflexion libre, articulée par des tensions étrangères aux normes codifiées. Le réel, sa considération, devrait l'emporter sur tout quadrillage a priori de la réalité. La scène judiciaire pourrait dès lors être considérée comme le lieu privilégié de cette pesée des faits à la lumière d'une démarche pratique. Or, au XIXe siècle, le tribunal est pensé comme un lieu d'application mécanique de la loi, par méfiance naturellement du retour des arrêts de règlement ou d'une république des juges. Ce qui en fait au XIXe siècle une simple chambre d'écho inutile, selon Victor Hugo. L'œuvre, selon Myriam Roman, fait donc apparaître le procès, je cite, comme le lieu de la rhétorique entendue comme artifice, du spectacle sportif et mondain, où s'éprouve l'inadéquation du discours judiciaire au réel. Fin de citation. Ainsi, Claude Gueux, publié en 1834, propose une autre scène de jugement, cette fois soustraite aux professionnels aimantés par l'éloquence politique. À l'époque, c'était ça. Hein. Bon. Il s'agit d'un tribunal à l'intérieur de la prison, composé de condamnés, car, je cite, « tout homme, quel qu'il soit, est un juge en puissance, y compris les condamnés par la justice, et cette justice désormais fondée sur la conscience de celui qui juge. » Fin de citation. La justice n'est donc pas une question de compétence, de métier ou de privilège, mais une question qui en appelle à une conscience au-delà de toute norme humaine. Toutefois, nous rappelle l'autrice, Hugo sait aussi faire de la loi un outil au service de la justice. C'est notamment le cas dans le domaine de la propriété littéraire et artistique où, comme Balzac lui-même, hein, qui critiquait très fortement la loi, confie et a confiance dans le pouvoir de cette loi pour protéger les auteurs. Donc ce n'est pas un anti-loi, c'est simplement un appel à user de la loi différemment. Myriam Roman, au-delà de l'analyse des œuvres d'Hugo, restitue ainsi avec ampleur le contexte intellectuel dans lequel la pensée d'Hugo évolue. L'histoire culturelle, l'histoire des idées font l'objet d'une généreuse présentation qui permet de situer la pensée d'Hugo, d'en apprécier la nouveauté ou la radicalité, comme sa fidélité à des convictions ou au contraire ses fluctuations au gré des événements politiques. Je rappellerai que Hugo a été pair de France sous la monarchie de Juillet, représentant du peuple sous la Seconde République, sénateur sous la Troisième République. Donc ça fait quand même un parcours assez riche. Il ne s'agit pas de contradiction, mais d'ajustement de ses convictions avec les domaines qu'il considère. C'est un intérêt d'ailleurs du livre de montrer la cohérence à travers les modifications. Ainsi, le droit constitutionnel devient un terrain où la loi est recherchée, l'encadrement constitutionnel du pouvoir paraissant être la garantie contre les tentations d'abus de pouvoir. Ouvrage d'histoire qui dévoile le visage d'une France passée de la monarchie à la République, traversée par la Révolution française et les germes que cette dernière enracinera dans le siècle, le droit du poète, le titre de l'ouvrage, permet de saisir Hugo à la fois comme le reflet d'un temps identifié à son mouvement même et origine active de ses mutations. Homme du siècle ou homme siècle, je rappelle qu'Hugo est né en 1802 et il est mort en 1885, Victor Hugo est bien une voix incontournable lorsqu'il s'agit de justice et de ce que ce mot notion cherche à vouloir dire. Myriam Roman nous en convainc.
Merci Sandra. Jérôme, un commentaire sur ce...
Non, c'était juste pour rappeler que le réel, le retour au réel, est la question politique fondamentale d'aujourd'hui.
Oui.
Et je voulais juste signaler la diffusion le 4 ou 5 février, j'ai malheureusement pas la date sous les yeux, sur Public Sénat d'un documentaire sur Simon Leys, de Frédéric Gardel, qui a déjà réalisé des portraits de Raymond Aron et d'Albert Camus, consacré donc à Simon Leys, l'homme qui a déboulonné Mao, je crois, c'est à peu près le titre, qui sera diffusé donc sur Public Sénat dans quelques jours.
D'accord, donc on surveillera de près la diffusion, Sandra.
Oui, donc je voulais simplement ajouter, en rebondissant sur tout à l'heure, que c'est l'une des missions aussi de la littérature que de combattre systématiquement, alors moi ce que j'appelle les représentations. Je prends tout simplement un certain nombre d'auteurs qui, au début du XXe siècle, ont pris conscience que quand ils faisaient un voyage, pour parler de choses beaucoup moins tragiques, notamment en Italie, ils étaient tellement imprégnés des représentations romantiques, du voyage à Rome, etc., qu'ils ne voyaient de l'Italie que ce qu'ils avaient appris à lire, à voir sur l'Italie. Et donc cette espèce de défaut ou de diable, comme on veut, propre à l'homme, de ne jamais prendre le parti pris des choses, en fait, pour reprendre le titre célèbre, c'est quelque chose qui est constant. Il n'y a pas que la politique.
La littérature est du domaine du particulier, comme le dit Camus, le disait déjà.
Et qui essaie d'être justement dans le Hugo, mot qui dit très exactement ce qui est.
Hugo et Leys, à sa manière, voilà, leur manière
absolument.
Différemment.
Il y avait vraiment des échos, là.
Oui, tout à fait. Rejoignent effectivement ce monde du particulier contre les abstractions généralisantes qui nous en détourneraient pour le malheur de l'humanité, malheureusement.
Oui.
Bien, merci à tous les deux pour cette belle discussion. Je signale dans la bibliographie que nous avons utilisée, évidemment, le livre de Jérôme Michel, Simon Leys, Vive dans la vérité, Aimer les crapauds, aux éditions Michalon, collection Le Bien commun. Je signale également le studio de l'inutilité, le dernier essai de Leys dont nous avons parlé, aux éditions Flammarion, Champs, Essai, et de Gérardine Mühlmann, Pour les faits, aux belles lettres qui vient d'être publiée, et également le numéro de commentaires de 2015 de Tombeau pour Simon Leys, avec des textes notamment de Philippe Reynaud et de François Sureau. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radioamicus.net et à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée par Leobardo Arango et réalisée par Marin Isberger. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.